Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver après deux jours d'interruption. Alors j'ai fait le truc à la mode, j'ai bêtement attrapé une saleté de virus et j'ai perdu ma voix. Ce qui, pour faire de la radio, c'est pas top. Alors un énorme merci à Elisabeth Assayag qui a assuré le job pendant deux jours et surtout merci à vous tous pour vos messages de soutien. Cet après-midi, je vous propose de prendre le large. On va recevoir une femme assez exceptionnelle. En 2006, elle fait le tour de l'hémisphère sud à contre-courant. Ce n'était pas son coup d'essai puisqu'en 2003, elle a traversé l'océan Atlantique à la rame et toujours la rame. En 2005, le Pacifique. Mais pourquoi ? Pourquoi fait-elle tout ça ? Que va-t-elle chercher toute seule sur l'eau à des milliers de kilomètres de sa vie ? On reçoit cet après-midi Maude Fontenoy. Son livre « Vivre vraiment » vient de paraître aux éditions First. Bien sûr, comme chaque après-midi, tous vos rendez-vous, le à la une avec Elisabeth qui va nous parler d'un guide viril de développement personnel. Un guide viril parce que c'est seulement pour les hommes. Et puis on terminera l'émission avec Anne Cazobon. Bonjour Anne.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Et on continue à se construire malgré nos blessures.
Mais oui, après l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, j'arrive à retomber sur mes pattes pour vous parler de couple et d'amour en ce vendredi, puisqu'aujourd'hui, place à la cinquième et dernière blessure qui empêche d'être soi-même, la trahison.
Alors n'hésitez pas à suivre tous vos rendez-vous sur Europe1.fr en direct ou encore en podcast. Vous nous réécoutez quand vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr réagir pendant l'émission. Les réseaux sociaux sont là pour ça, avec le hashtag LVDS ou encore Facebook. La vie devant soi du vendredi, c'est parti.
La vie devant soi sur Europe 1.
Et comme tous les après-midi, on commence par le à la une avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour à tous et bonjour Isabelle.
Un grand merci pour hier et avant-hier.
C'était un plaisir.
Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler des hommes, de leur sensibilité, de leurs forces et de leurs émotions. Une idée que vous avez puisée dans un livre, à mon avis ce sera un best-seller, qui sort la semaine prochaine.
Et oui, ça s'appelle « Le guide viril de développement personnel à l'usage des hommes ». Tout un programme. Ce guide sortira aux éditions Erol la semaine prochaine. L'auteur David Wagner, il est anglophone, part du principe que tout ce qui tourne autour du développement personnel, comme le pilates, la sophrologie, les ateliers de pleine conscience, le yoga, rassemble des femmes le plus souvent. Et il estime que les hommes sont un peu laissés de côté ou ils n'osent pas toujours s'aventurer dans ce genre d'atelier. Donc, face à ce constat, l'auteur sort ce guide et il y développe quatre grands thèmes pour que l'homme renoue enfin avec ce qu'il appelle sa virilité. Ces quatre grands thèmes sont l'homme roi, c'est-à-dire l'homme qui se maîtrise, l'homme qui a le pouvoir de créer le monde qu'il désire. Second thème, l'homme guerrier. Vous l'avez reconnu, le guerrier, c'est l'énergie de l'action, celle du chasseur, celle du tueur. C'est celui qui pousse à tuer l'agresseur quand il y a danger. Il y a l'amant. C'est celui qui a le plaisir, la joie d'aimer, d'être aimé. Il aime la vie, le sexe, la beauté. Et enfin, il y a l'homme mystique. C'est celui qui acquiert la sagesse, l'intuition, celui qui se connecte à la spiritualité, celui qui laisse exprimer sa sensibilité. Et pour l'auteur, si les hommes réunissent les quatre pouvoirs, alors il retrouvera son équilibre parfait.
Alors en fait, l'idée, c'est qu'on trouve un homme qui est un peu des quatre. Ou alors si on ne trouve pas, on peut trouver quatre hommes
sinon
qui ont un peu de chaque.
C'est un peu ça. Après un long travail, ça peut être possible, même si les hommes ont tendance à privilégier une ou deux de ses forces et à se montrer plus faible avec les autres, notamment avec la sensibilité. C'est l'aspect le plus compliqué à développer chez un homme, nous dit le coach Maxime Coignard.
Pour moi, la sensibilité est universelle. Elle n'appartient ni à l'homme ni à la femme. Il y a juste une chose qu'on observe, c'est que la femme a une sensibilité plus forte quant à son intuition, sa capacité d'écoute, son intuition, cette capacité à écouter cette petite voix intérieure qui parle en elle. Je pense que savoir écouter ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est effectivement important lorsqu'on doit prendre des décisions, doit faire des choix. C'est justement la chose qui peut différencier l'homme et la femme au niveau de notre sensibilité, c'est cette capacité à écouter notre petite voix intérieure, à oser se dire, tiens là, je pense que j'ai la réponse, donc je vais aller dans ce sens-là. La femme a plus d'aptitude naturelle à l'écouter. C'est la seule chose qui véritablement différencie la sensibilité masculine de la sensibilité féminine. Pour les hommes, elles se travaillent, car cette sensibilité qu'ils ont en eux, le but, c'est de les aider à l'exprimer. Et ça passe par l'expression de leurs émotions, leur capacité à dire ce qu'ils ressentent. Les femmes le font plus intuitivement. Il n'y a pas de vrai homme. On peut pleurer hein, quand on est un homme. C'est bien, c'est positif. Moi, dans mon cabinet, j'ai l'occasion d'avoir des gens qui pleurent. Et je trouve ça très bien, des hommes qui pleurent, qui expriment leurs émotions. Ça les libère de choses qu'ils ont effectivement en eux, l'expression de cette sensibilité féminine.
Alors, il faudrait que les hommes apprennent à pleurer, à exprimer leurs émotions sans avoir peur du ridicule, parce que c'est souvent ça qui les bloque.
C'est ça qui les bloque, parce que pour certains hommes, c'est ce que me disait le psy, exprimer sa sensibilité, pleurer, eh bien c'est avant tout cesser d'agir, hein, c'est s'avouer vaincu. Ils le perçoivent comme ça, on pleure quand il n'y a plus rien à faire. Longtemps, les larmes masculines étaient contraires à la virilité. Aujourd'hui, ça a changé, les larmes des hommes sont de plus en plus interprétées comme une preuve d'authenticité, hein, une preuve d'authenticité émotionnelle. Arrêtons de serrer les dents pour jouer les héros, dit l'auteur de ce livre. L'homme doit s'autoriser à exprimer ses moments de vulnérabilité, mais de préférence sans bruit et tout seul.
Bah, ce serait quand même bien qu'on en parle aux mamans, puisque ce sont les mamans qui élèvent les petits garçons. Bon, de toute façon, on fait tout de notre mieux.
Chacun fait ce qu'il peut.
Excellent week-end, Elisabeth. On vous retrouve lundi pour un nouveau à la une. Dans un instant, on va découvrir le parcours de celle à qui on a répété petite que ce qu'elle voulait faire, c'était vraiment pas un truc de fille.
La vie devant soi sur Europe 1.
Sache !
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo Santillano.
18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot.
Ça nous rappelle tous nos souvenirs de colo, Hugo Frey avec Santillano. Juste l'idée comme ça d'accueillir celle avec qui on va passer une heure, Maude Fontenoy. Bonjour Maude.
Bonjour.
Votre livre vient de paraître aux éditions First, son titre, Vivre vraiment. Alors moi j'aime beaucoup ce livre parce qu'il commence par un premier paragraphe où vous dites « Pourquoi les femmes doivent-elles toujours se justifier ? Pourquoi il faut que nous on explique, les autres, les hommes n'expliquent pas, nous il faut toujours qu'on se justifie ? » Ça vous semble une injustice ?
Ah oui, non, mais je pense que parfois on en a un peu, pour autant dire, rester poli, ras-le-bol, de sans arrêt se justifier. On se justifie, j'ai pas fait pas plus tard que ce matin une radio où j'ai dû me justifier du fait que j'avais des enfants de pères différents. On se justifie quand on parle d'agression sexuelle parce que c'est toujours oui, mais elle l'a bien cherché. On se justifie de vouloir traverser des océans à la rame parce qu'on au final. C'est un truc réservé aux hommes. On se justifie de travailler parce qu'on est maman, de ne pas travailler si on est maman parce que du coup on ne pose pas les bonnes. Enfin, on passe notre temps à essayer de se déculpabiliser nous-mêmes déjà et de s'expliquer.
Alors il y a une question que vous détestez que l'on vous pose et on vous la posait souvent, c'est est-ce que c'est pas plus dur pour une femme de partir en mer qu'un homme, hein? Et vous dites mais c'est quoi cette question de macho, c'est quoi cette question? Et le pire, vous dites souvent que ce sont des femmes qui vous l'ont posée.
Alors, c'est vrai que moi, si j'ai fait le choix de partir dans mes aventures à la rame ou à la voile, c'est parce que c'était des premières féminines. J'avais envie de prouver que c'était pas une question de gros bras, c'était d'abord une question de volonté. Et que cette volonté, vous Isabelle, moi et toutes celles qui nous écoutent et tous ceux, on a tous cette même volonté. On sait pas tous comment forcément aller la chercher. Après, c'est une question d'organisation, de travail. Mais qu'en tous les cas, les femmes et les hommes sont égalités sur plein de choses et notamment sur même des traversées à la rame. Moi, c'est vrai qu'on me ramenait sans arrêt au côté masculin en disant « t'es un vrai mec, c'est pas une gonzesse celle-là, elle en a ». Donc il y avait un côté toujours un peu sexiste qui laissait penser que si tu faisais ce type de choses, si tu vas jusqu'au bout de ton rêve, au bout de ton défi, tu n'es plus femme, tu n'es plus mère, tu n'es plus aimante, tu n'es plus amante, tu n'es plus féminine. Alors j'ai souvent un peu caricaturé le trait en rappelant que je m'épilais les jambes en mer, que je me mettais de la crème anti-rides, que je me faisais des masques. Alors ça faisait ricaner certains, mais je peux vous dire que j'en ai un peu que faire. Mais c'était une façon de dire, mais non, les filles, on peut être soi-même, rester soi-même, et d'ailleurs éprouver des difficultés, parce que Dieu sait que j'en ai bavé dans mes aventures, mais néanmoins rester femme et en restant soi-même, avoir l'énergie pour y arriver finalement.
Alors tous ces petits ricanements, toutes ces petites voix, voix qui s'est élevée autour de vous pour vous dire « Mais ma pauvre fille, tu n'y arriveras pas ». Quelque part, vous, vous en avez fait une superbe force. C'est ce qui vous a donné le courage d'entreprendre ce que vous avez fait. Même si l'histoire de la mère, c'est un peu l'histoire de votre famille. Vous avez été élevée avec vos deux frères sur un bateau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'école, c'était les cours du CNED. Il y avait un papa, un peu taiseux, un peu marin, qui ne parle pas beaucoup. Et une maman qui était le socle de l'organisation familiale.
Et vous avez bien résumé. Vous avez bien résumé. C'est vrai que moi, cette enfance en mer, elle m'a appris déjà le clan familial. Elle m'a appris à m'adapter à tout. Et elle m'a appris surtout l'amour du grand large et l'amour de la nature. Alors mes deux frères, eux, je peux vous dire que je les épuise en rentrant même dans la pièce et qu'ils n'ont pas du tout envie de partir sur des bateaux. Donc c'est pas ça qui explique que j'ai voulu faire ces aventures maritimes ensuite en solitaire et très difficile. Mais en tous les cas, mes parents m'ont appris qu'on pouvait aller au bout de soi-même et qu'il fallait s'adapter à tout. Et c'est vrai que vous reveniez au début sur le fait comment est-ce que finalement des difficultés, on en sort une force. Et bien c'est vrai que moi, toutes les petites phrases qu'on m'a sorties et tous ceux qui ne croyaient pas en moi, je m'en suis, et finalement c'est un des conseils du livre, c'est comment vous arrivez avec tout ce qui vous entoure à faire de ça une énergie, une force, quelque chose qui va vous tirer et qui va peut-être le moment donné où tout s'écroule autour de vous, c'est cette petite critique un jour qui va vous faire tenir et qui va vous faire ne pas lâcher, ne pas baisser les bras.
Alors l'école de la vie, elle est assez extraordinaire. Votre papa vous demandait de choisir votre propre punition et vous disiez d'ailleurs que la punition que vous détestiez, c'était plonger, faire le tour du bateau et puis remonter. Et pendant ce temps-là, votre maman, j'ai appris en vous lisant qu'elle était malade sur les bateaux. Mais qu'est-ce qu'elle... Pourquoi
Alors,
elle a
maman,
accompagné cette histoire?
Maman, paix à son âme. En plus, maman nous a quittés l'année dernière. Elle me manque énormément. Elle aurait eu beaucoup de plaisir à vous écouter parce qu'elle est, elle aimait beaucoup Europe 1. Maman avait le mal de mer. Alors oui, elle a suivi son mari par amour et elle a eu plaisir à vivre sur ce bateau pendant toutes ces années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout au long de la vie qu'on a partagée ensemble, elle me disait toujours « Oh ben Maud, toi, en tant que femme, tu me venges. » Je pense que je la vengeais d'un certain côté d'aller au bout de ce que moi j'avais envie de faire, de ce que moi j'avais envie d'entreprendre et que même quand c'était difficile, j'arrivais à
tenir. Vous pensez qu'elle a subi, elle, en fait, la passion de votre père pour la mer?
Je pense que... Il faut être artisan de sa vie, c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre. Il faut être moteur de sa vie et il faut essayer au maximum de ne pas subir. Donc il faut faire des choix et ces choix-là, bien sûr que parfois ils vous emmènent vers des choses difficiles. Quand je fais le choix de faire une traversée à la rame, je sais bien que ça ne va pas être une partie de plaisir. Quand tu fais le choix de te séparer d'un homme à un moment donné, tu sais que tu vas subir des conséquences qui parfois vont être douloureuses. Quand tu fais le choix de changer de métier. Mais on a du plaisir à être artisan de sa vie, à faire des choix et à ne pas être victime de rien. Et c'est pas pour ça que c'est facile. Le bonheur, il n'est pas forcément confortable. Hein. On se révèle face aux obstacles et on trouve du plaisir aussi dans le dépassement. Donc c'est pour ça que ça doit nous donner un peu la pêche pour continuer. Les femmes aujourd'hui et les hommes d'ailleurs, mais ont plus ces armes pour faire ces choix-là. À l'époque de ma maman, on subissait peut-être un peu plus parce qu'on avait le sentiment que c'était comme ça. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, on se dit, ben non, ça me plaît pas, je change, je bouge, ça ira bien.
Artisan de votre vie, on va repartir en arrière. On est 2006 et le tour du monde à contre-courant. Il y a eu 2003 la traversée de l'Atlantique à la rame. Il y a eu d'autres défis que vous vous êtes lancés. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans des aventures pareilles? On en parle dans un instant.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
Et on retrouve notre invité cet après-midi, on prend le large, on prend la mer avec Maud Fontenoy, Vivre Vraiment, votre livre vient de paraître chez First. Alors l'idée du premier défi est venue comment? Il y a quelqu'un dont vous parlez d'une façon très touchante et en même temps très admirative, c'est Daboville.
C'est vrai.
On sent que cet homme, c'est une rencontre.
Non, je pense que nos vies, alors est-ce qu'elles sont tracées, est-ce qu'elles sont... chacun on pourra en discuter longtemps, mais néanmoins, il y a des rencontres qui vous illuminent ou alors qui vous montrent le chemin. Ça peut être à un moment donné un livre, ça peut être une musique, ça peut être quelqu'un qui vous dit une phrase, ça peut être... Là, en l'occurrence, moi, Gérard Daboville, j'avais admiré ce qu'il avait fait. On s'était rencontrés à plusieurs reprises. Il m'avait d'abord dit que c'était pas possible, que de toute façon, fallait oublier. Enfin bref, il a essayé beaucoup de me décourager au début pour tester un peu ma motivation. Et puis après, finalement, il s'est... il s'est vraiment pris au jeu avec moi et il m'a beaucoup, beaucoup aidée et je lui en serai toujours reconnaissante parce que vous pensez aussi à remercier. Mais il faut aussi savoir que dans notre vie du quotidien, on a des fois des mains et on les voit pas toujours, mais des mains tendues, il y en a. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il y a beaucoup de gens qui vous tirent vers le bas. Tout le temps, et t'as toujours celui qui va te dire bah non, n'hésitez pas, bah, tu sais, faut pas trop, bah, t'as pas forcément bon, et puis t'as deux trois lumières à un moment donné qui disent bah si, moi je vais t'aider, bah tiens, et bien faut s'accrocher à ça, vous voyez, vous arrimez à cette main qui vous est tendue. Et vous verrez que finalement, tout au long de votre vie, vous avez ces mains un peu ici ou là. Alors après, à 40 ans, on apprend à l'art de l'essentiel, hein, c'est-à-dire à un petit peu alléger. C'est-à-dire à avoir moins de monde autour de soi, moins d'objets dans sa maison, de revenir à quelque chose de plus essentiel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous permet d'être mieux dans votre peau et peut-être d'avancer un peu plus sereinement.
Alors, vous dites que quand je suis en mer, je n'ai ce sentiment d'être dépossédée de tout, mais en même temps, c'est là que je suis le plus riche, le plus légère, le plus désencombrée.
Et ben c'est exactement ça. C'est vrai que moi j'ai fait le choix justement de partir à la rame parce que j'adorais cette idée. Vous avez un tout petit bateau minuscule dans lequel vous avez une petite machine pour fabriquer l'eau douce, de la nourriture en poudre, un tout petit habitacle cercueil d'un mètre cube dans lequel vous pouvez vous réfugier pour dormir. Rien d'autre, deux rames. Et vous allez donc vous déposséder de tout et vous sentir riche de l'idée que vous avez eue au départ de faire cette traversée, l'énergie que vous allez mettre en œuvre chaque jour en ramant 8 à 10 heures. Et en vous couchant le soir et en vous disant « j'ai fait du mieux que j'ai pu, je ne sais pas si demain j'y arriverai, je ne sais pas encore moins si je toucherai la ligne d'arrivée un jour, mais je me dis chaque soir j'ai fait de mon mieux ». Et ça c'est vrai que c'est ce que j'essaie de mettre toujours aujourd'hui en pratique. C'est vrai que la mer est souvent un peu loin et puis je n'ai pas envie de repartir à la rame vraiment avec mes enfants aujourd'hui. Mais cette idée de des fois tu es encombré de plein de trucs et tu as plein de galères et tu t'en sors pas de ta journée et tu... Bon, tu te dis, ok, je vais déjà structurer un peu, comme la grande montagne que je voyais avant de partir en mer, en me disant, je vais couper la montagne en petits bouts. Puis finalement, petit à petit, je vais finalement y arriver dans ce sommet qui est un peu dans les nuages. Et puis d'autre part, en essayant de se dire chaque soir, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Je sais pas demain, je sais pas si je réglerai tous les problèmes. Bon, mais là, au moins, j'ai fait mon maximum dans tel et tel cas. Et pour arriver à retrouver un peu de zénith. Et de sérénité, de s'endormir et de se dire, voilà, je repars demain. Mais voilà, il faut d'abord faire un peu le vide de temps en temps.
Alors, vous avez été aidé par une astuce de votre maman que vous appelez un tableau de visualisation. Et donc, d'ailleurs, vous avez toujours au-dessus de votre bureau le tableau de visualisation qui appartenait à votre maman. Et sur ce tableau, en fait, il y a des messages, c'est la force de l'écrit. Et vous dites, à force de baigner sous ces mots, ils finissent par nous imprégner. Et nous rendre plus forts.
Oui, alors ce tableau de visualisation, ça fait beaucoup rire mon entourage, mais dans ce livre, j'ai vraiment essayé que ça soit une conversation. Ce livre, il est vraiment comme si je parlais à ma meilleure amie, à ma fille, à ma mère, enfin voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus intime possible et à la fois la plus sincère. Et c'est vrai que ce tableau de visualisation, c'est deux choses. C'est à la fois des petites choses que vous pouvez puniser devant vous, qui peuvent être « je pardonne », qui peuvent être « je récapitule ma journée en essayant d'extraire que le côté positif » ou en étant « j'apprends à dire non ». Enfin, des petites choses, un petit peu des mantras. Ça peut être des photos de choses hyper importantes pour vous qui vont vous baigner pendant votre moment de travail. Et puis, ça sera, moi, c'est une feuille aussi sur laquelle on essaie de coucher ce que l'on souhaite vraiment au fond de soi-même sur des thèmes qui sont celui du travail, celui de la famille, celui des finances, celui du voyage. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux de ma vie ? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux dans une semaine ? Qu'est-ce que je veux dans un an ? Qu'est-ce que je veux dans 10 ? Et le simple fait de se poser la question vraiment de ce que je veux, permet d'axer son énergie dans cette direction-là, de pas se laisser trop perturber par le reste, et puis d'être plus serein. Parce que parfois, on peut se fixer un objectif qui va être pas évident, mais le fait de se dire bah, « c'est finalement ça que je veux », tu sais,
Est-ce que le fait de l'écrire, ça vous dit aussi bah, « puisque c'est écrit, je vais le faire ».
Voilà, ça te permet de verbaliser et de, comme on pourrait dire de façon un peu scientifique, de syntoniser les bonnes ondes qui sont liées à ces actes que vous avez envie de réaliser. Enfin, vous vous imaginez en les obtenant déjà, en les ayant déjà. Quand on part traverser à la rame, on se dit pas j'y vais, mais je vais perdre. Donc on se visualise en étant déjà sur la ligne d'arrivée, en ayant déjà réussi. Et donc, on va sécréter l'émotion du bonheur de l'arrivée. Et probablement que ça va nous aider dans
c'est
notre requête.
Alors, il y a une phrase que vous détestez aussi, et vous l'avez entendue assez souvent. Oui, mais bien sûr, pour toi, c'est facile parce que tu as toujours eu de la chance. Et on va voir que sur votre petit bateau, avec votre petite couchette d'un mètre cube, la chance, elle n'était pas là.
La vie devant soi sur Europe 1.
La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin.
Et cet après-midi, on reçoit Maud Fontenoy, votre livre « Vivre vraiment » vient de paraître aux éditions First. Alors, à tous ceux qui vous disent « Oui, mais pour toi, ça a été facile, tu as eu beaucoup de chance », vous dites absolument pas. Vous, vous avez tout balisé, vous avez tout anticipé avant. Et vous dites « La chance, elle est là ».
Alors, c'est certain que moi, j'ai envie de dire à ceux qui nous entendent que malheureusement, je vais peut-être les décevoir, mais je suis pas un super-héros. C'est-à-dire qu'on a aussi son lot de difficultés, mais aussi de deuil, de confronté à la maladie, de déception, de trahison. Personne n'est vraiment à l'abri de tout ce qui fait nos quotidiens et ce qui aussi vous construit. Donc, c'est sûr que ça n'a jamais été vraiment ni facile ni gagné d'avance et il a fallu toujours redoubler d'efforts. Moi, je dis que cette chance, c'est vrai qu'on l'emmène avec soi, justement parce qu'il y a tellement de choses aléatoires. En mer, c'est la météo. Sur la vie terrestre, ça va être les aléas économiques, ça va être les rencontres, ça va être des déceptions. Bon, tu peux pas tout contrôler. Mais la chance, tu vas l'emmener avec toi et c'est elle qui va te permettre... Alors, tu vas avoir le meilleur bateau, tu vas avoir la meilleure organisation, tu vas anticiper le maximum de choses qui puissent arriver. Vous voyez, vous mettez beaucoup de choses de votre côté, vous remplissez votre sac à dos de plein d'astuces, comme un peu un MacGyver, et puis après vous allez voir que ça va vous servir, sachant qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas baliser, autant organiser le maximum ce que l'on peut.
Alors vous appelez un petit aléa de dernière minute, avant de prendre la mer, donc pour une aventure extraordinaire, vous allez chez le gynéco pour savoir si tout va bien. Et à ce moment-là, il vous dit, bon, il y a un petit souci, je dépiste, vous avez été dépisté, un cancer du col de l'utérus. On vous opère, vous ne dites rien à personne, vous prenez la mer 3 jours après.
Oui, alors c'est vrai que je l'ai appelé l'aléa dans le livre parce que j'avais pas envie d'y consacrer beaucoup de lignes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est arrivé que j'ai refusé. Alors j'ai eu de la chance parce que moi j'aime bien voir la chance partout. J'ai eu de la chance déjà qu'il soit dépisté 3 jours avant de partir par hasard parce que c'était la Marine nationale qui avait fait ma préparation. J'avais appris à me recoudre, j'avais appris à m'arracher des dents, j'avais appris à être élitroyée, être abandonnée en pleine mer. Enfin bon. Mais le côté gynéco, ils avaient dit nous on s'en occupe pas. Donc du coup last minute avant mon départ, je fais finalement ce contrôle et on détecte ça. Moi j'avais préparé mon départ, j'avais des sponsors qui comptaient sur moi, j'avais ma famille, j'avais des partenaires, j'avais bref, c'était inconcevable après un an et demi de travail, de préparation, de sacrifice de dire bah non, je vais repousser le départ. C'était pas possible. On peut pas repousser un départ sur un truc comme ça. La météo elle est calculée, enfin bref. La seule chose qu'on choisit, c'est son départ. Mais là, en l'occurrence, il était bien choisi et ça ne devait pas rentrer en ligne de compte. Donc le médecin, évidemment, n'est pas très content, me fait signer des décharges de tout ce que tu veux. Je vous avoue que du coup, les premières journées, voire les premières semaines sur le bateau ont donc été compliquées parce que j'ai beaucoup souffert. Enfin bref, rentrons pas là-dedans. Mais du coup, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Mais peut-être que d'un certain côté, vous savez, le fait de me voir plus loin, de ne pas vouloir y penser, d'essayer de me voir guéri, de me voir bien... Bah, ça a peut-être été une chance qui m'a aidée à m'en sortir. En tous les cas, aujourd'hui, ça va bien et je suis très heureuse. Du coup, c'est pour ça d'être d'autant plus maman parce qu'on m'avait dit que ça allait être plutôt compliqué. Mais donc, j'essaye de voir la chance partout, on va dire.
Est-ce qu'il y a eu un moment, alors vous avez dématé, vous êtes retrouvée toute seule. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, c'est trop gros pour moi, je risque d'y rester? Est-ce que vous avez eu peur?
Oui, oui. Alors, largement. Je me suis souvent dit, là, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est parce que tu anticipes, tu prépares tout ça, mais sauf qu'à un moment donné, tu te trouves devant des situations où là, vraiment, quand tu es dans 10-12 mètres de creux, que ton bateau à rame se retourne 17 fois dans la même nuit, que tu es dans un genre de tambour de machine à laver, voyez, mode essorage... Enfin bon, que tu te dis, mais c'est pas possible, mon bateau va être disloqué par la prochaine vague. Quand dans le tour du monde, le mât tombe, t'as 32 mètres de mât qui te tombe sur la figure, tu te dis, mais c'est pas possible, mon bateau part maintenant à la dérive. Quand ton dessalinisateur tombe en panne et tu dois boire ton urine, Là, tu dis non, là, ça va quand même un peu loin. Alors, bien sûr que tu as peur. Alors, cette peur, moi, je le dis souvent aux enfants avec qui je dialogue beaucoup dans le cadre de ma fondation. La peur, c'est un atout qui vous rend plus rigoureux, plus déterminé, plus préparé. Si on n'avait pas peur, on ne regarderait pas à gauche et à droite en traversant la route. La peur, elle vous permet de, justement de ne pas être téméraire, de ne pas faire n'importe quoi. Après, dans les moments de grand désespoir, t'as intérêt à aller chercher vraiment au fond de toi l'énergie qu'il faut. Mais je me suis sentie très, 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 très seule dans des moments de vie de quotidien où j'avais les deux pieds sur terre et où pourtant j'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi et où je n'arriverais jamais à retrouver le sourire et à arrêter de pleurer. Donc, c'est pas tellement le fait d'être isolée au fin fond de la mer. C'est le fait que des fois, c'est dur. C'est dur et que l'être humain, il est quand même petit, fragile. Et donc, voilà, on apprend quoi ? Bon, on apprend à toucher le fond de la piscine et à se relever. À se relever comment ? Parce qu'on a fait promesse à quelqu'un. À se relever parce que on a voilà des enfants à gérer ou on a une petite mosaïque de motivation à l'intérieur de soi dans lequel on va puiser qui sont des choses très personnelles. Ça peut être à un moment donné une musique qui va vous permettre de vous ressortir de votre mélancolie. Mais je trouve qu'on arrive à trouver des techniques que j'essaie de donner dans le livre pour se ressortir petit à petit de ce moment très dur et d'arriver à retrouver la pêche.
Alors, des techniques, vous en donnez. Vous dites que vous pratiquez le yoga en pleine mer, l'hypnose également, et que l'image qui vous fait du bien, c'est un lagon polynésien. Votre maman est là, vos enfants aussi. Vous êtes dans l'eau et vous êtes enceinte.
La vie devant soi sur Europe 1. La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Avec notre invité cet après-midi, Maud Fontenoy, son livre « Vivre vraiment » vient de paraître chez First. Alors, expliquez-moi la force de cette image que vous vous êtes fabriquée. Donc ce lagon, votre maman est là, vos enfants sont là, vous êtes dans l'eau, vous êtes enceinte. Et c'est cette image qui vous apaise ?
En fait, un des conseils que je donne dans le livre, c'est d'avoir chacun notre ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire l'endroit dans lequel vous allez aller vous ancrer, vous retourner, plonger, qui est votre petit paradis à vous dans les moments de stress. Donc ça peut être avant une grosse réunion qui va vous angoisser, ça peut être le soir parce que vous n'arrivez pas à vous endormir, à un moment donné une grande tristesse, et vous allez vous plonger, vous ancrer dans un petit moment de paradis. Alors, son moment de paradis, certains, ça va être un souvenir d'enfance, ça va être un dîner entre amis, ça va être des choses très très personnelles. Moi, il s'avère que l'endroit où j'étais le plus heureuse, c'est vrai que c'est dans ce pays, la Polynésie, où j'ai fait le choix de partir pour accoucher de mes enfants, avec ma maman parce qu'elle n'est plus là et qu'elle me manque beaucoup. Quand j'étais enceinte, parce que quand on est enceinte, on a l'impression d'avoir enfin une utilité. Moi qui cherche toujours du sens à tout ce que je fais, quand on est enceinte, on a l'impression que d'un seul coup, bah voilà, on a vraiment un sens à sa vie, c'est celle de la donner. Et donc voilà, moi ça rassemble tout ça. Et puis c'est vrai que c'est des endroits merveilleux qui sont ces îles paradisiaques. Et puis moi, il faut qu'il y ait la mer de toute façon pour me sentir bien. Certains, la mer angoisse, hein, donc tout le monde n'a pas le même ancrage.
Vous vous sentez plus rassuré en étant sur votre bateau,
oui,
qu'en étant sur la terre ferme.
Oui, je vous avoue que j'ai passé plus de temps de ma vie déjà sur les mers que sur la terre. Et moi, sur mon bateau, j'ai l'impression d'avoir les pieds sur terre toujours. Donc je me sens pas du tout angoissée, j'ai pas du tout peur de couler. Rien. Et c'est vrai que sur terre, par contre, je me sens angoissée, par exemple dans la foule, quand il y a beaucoup de monde, mais même quand je vais à un dîner, qu'il y a plein de monde d'invités, je ne sais pas trop comment me mettre. C'est toujours des moments, voilà, je suis un peu mal à l'aise, j'ai pas ces codes-là. Bon, j'en ai d'autres. Alors, il ne faut pas. Moi, j'essaye de dire aux enfants, bon, bien sûr, de laisser personne leur dire que c'est impossible, donc de croire en eux, qu'ils soient malades à l'hôpital, comme ceux avec qui je travaille dans le cadre de ma fondation ou dans les écoles. Mais voilà, de pas juger. Enfin, si t'es meilleur numéro 2, si t'es meilleur en numéro 1, si toi, tu aimes être seul, si toi, t'aimes être accompagné. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on aime et ce qu'on veut. Et après, ça prend du temps de l'accepter, de se connaître. Mais à 40 ans, je pense que là, on acquiert justement une certaine sérénité. Voilà, moi j'ai trouvé l'amour aujourd'hui, j'ai mon quatrième enfant, j'apprends à savoir dire non. Et ça s'apprend aussi.
Alors, il y a une chose que vous détestez, dont on va parler dans quelques instants, c'est la facilitation. C'est-à-dire que vous refusez tout ce qui est facile, tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui n'apporte rien. Peut-être juste de vous faire du bien. Non, ça vous détestez. Et vous dites d'ailleurs que vous avez hérité de vos parents et surtout de votre père le sens du devoir et le sens du dépassement. On en parle dans un instant. On va écouter Julien Clerc avant de vous retrouver. Et juste pour vous dire d'ailleurs que Julien Clerc va fêter ses 50 ans de carrière ce week-end à la Salle Pleyel à Paris.
La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin.
Et on retrouve notre invité Maud Fontenoy, donc Vivre Vraiment vient de paraître chez First. Il y a un deuxième petit livre qui est plutôt destiné aux enfants, Mission Planète, et qui vous permet donc de faire passer le message pour les enfants, se reconnecter à la nature, être respectueux. D'ailleurs, vous dites, il faut être très respectueux de la mer, on ne vint pas un océan, généralement en plus on n'est pas de taille, on n'est pas de force, il peut nous effacer.
Non, c'est vrai que mon engagement pour la préservation de l'environnement, il date depuis près de 15 ans. Donc, dans le livre adulte, je parle de comment la maman peut ramener ses enfants à des produits naturels, aller faire le marché, à distinguer un concombre d'une courgette. Enfin, voilà. Ce qui nous fait du bien. Et ça nous fait du bien de retoucher les arbres, de mettre sa main dans la terre, d'aller voir la mer, de respirer l'air. Moi, des fois, quand j'ai un petit moment de déprime, il suffit que je regarde le ciel, je me dis, bon, ça va, le ciel est encore là. Tu vois, c'est comme si tu dézoomais et puis tu te vois tout petit et puis d'un coup tu dézoomes et puis tu dis bon, finalement ça permet de relativiser. Cette connexion à la nature te permet de te reconnecter avec toi-même et de relativiser aussi ta place sur cette petite planète. Et c'est vrai que dans le livre pour enfants, cette mission planète justement, c'est pousser nos, là c'est pour les 7-10 ans, nos plus jeunes à comprendre leur rôle, et ils adorent ça. Parce que alors moi, je peux vous dire que les miens à la maison, plus dans ma fondation, on a des programmes éducatifs dans tout le milieu scolaire français gratuit. On voit que les enfants sont des véritables éponges. Quand on leur parle du fameux 7e continent de déchets qui est entre Hawaï et la Californie, qui représente près de 5 fois la taille de la France et qui est un ramassis de déchets, tu te dis qu'il y a un truc à faire sur Terre. Mais à la fois, tu peux leur parler aussi de la beauté du monde qui les entoure. Je leur parle des baleines, des dauphins, des poissons volants, du dépassement de soi, d'aller au bout de ses rêves, des petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Donc après, ils vont venir vous embêter, vous les parents, en rentrant chez vous, en disant il faut éteindre la lumière, il faut éteindre l'eau, il faut utiliser un shampoing bio, enfin bref. Mais c'est les futurs consommateurs, c'est les futurs hommes politiques, c'est les futurs chefs d'entreprise. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de les sensibiliser parce que l'éducation, j'aime le dire, c'est la clé du changement. Je le pense vraiment. C'est par eux que ça passera. Et donc, je remercie tous ceux qui m'aident. Un petit clin d'œil à Solène qui nous écoute et qui m'aide dans cette action-là. Je crois qu'on a besoin beaucoup d'énergie pour ça. Et les parents, et ils sont vraiment en première ligne. Parce que ce livre, vous pouvez le lire avec eux, jouer avec eux, vous allez en apprendre autant qu'eux.
Alors, il y a effectivement toutes les richesses que vous mettez en avant, que nous a donné la mer. Vous dites qu'il y a à l'heure actuelle près de 22 000 médicaments qui sont issus des milieux marins. Vous parlez de l'étoile de mer, du hareng, le nerf optique, du calamar. Enfin, donc, il y a... Et vous citez ces 13 prix Nobel qui sont issus de recherches qui viennent de l'océan.
C'est vrai que la mer est une richesse incroyable. Alors moi, c'est un amour de l'océan qui m'habite depuis toujours. Mais la nature nous apporte plein de choses. On parlait en antenne tout à l'heure de ce qui nous fascine toutes les deux, qu'est le biomimétisme, comment la nature nous inspire chaque jour. On a compris la prolifération des cellules cancérigènes grâce à l'étoile de mer. On lutte aujourd'hui contre le sida avec la ZT qui vient du hareng. Donc il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer. Moi, je pense que c'est pour ça. Donc c'est presque par égoïsme qu'il faut préserver la nature aujourd'hui. Et ça sera l'engagement de ma vie. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas toujours facile, parce qu'il faut arriver à jongler son engagement, sa vie avec ses petits-enfants avec qui on essaie de faire au mieux, sa vie de femme, et que finalement c'est le défi de tout le monde aujourd'hui et de beaucoup de femmes d'arriver à jongler avec tout et d'arriver à faire que tout se passe bien. Et là, il faut s'armer de patience et parfois se pardonner aussi de pas toujours être parfait.
Et puis s'armer aussi de psychologie positive. Vous en parlez tout au long du livre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Maud, on vous retrouve au Salon du Livre.
Oui, ne laissez pas seul, venez me voir au Salon du Livre dimanche à 11h.
Dimanche à 11h, le rendez-vous, il est noté. Nous, on se retrouve lundi, on parlera de la charge mentale des femmes. Un concept qui a surgi dans nos vies avec la force d'une évidence. C'est quand tout pèse trop lourd sur nos épaules, et bien la charge mentale, on en parle lundi. À 17h, Thomas Thoroux et toute son équipe. Et tout de suite, c'est Christophe Ondelat que l'on retrouve. Bonjour Christophe.
Bonjour Isabelle, vous allez mieux?
Je vais très bien. Et vous?
J'embrasse Christophe au passage.
Je vous embrasse. On s'embrasse tous. Oui. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle qui date du début des années 2000, l'affaire des Raspini, mère et fils, qui étaient réputés avoir un magot, qui ont été assassinés pour ça, mais on n'a jamais retrouvé le magot. Ça se passe à Nice.
Très bon récit, Christophe.